et aux contestations.
Donc, j'ai fait une heure pile.
Oui.
60 minutes.
Je voudrais apporter une précision avec votre permission. Merci de votre conférence. Effectivement, dans la Bible, tous les 7 ans, la terre se repose et en donne une partie. Et tous les 49 ans, les propriétaires de la terre reviennent à l'État.
Oui.
Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme précision.
Oui, vous avez raison, c'est plus précis que ce que j'ai dit.
Voilà. Et l'esclavage a été aboli il y a plus de 3300 ans.
Oui. Oui.
Oui, puisque on était prisonnier en Égypte pendant 400 ans, esclave.
Oui, oui.
Et quand on est sorti, l'esclavage a été aboli et parti de là, les 10 commandements étaient donnés. Il y a aussi un espace écologique assez important depuis cette époque. Voilà, c'est tout ce que je voulais apporter.
Je suis tout à fait d'accord. Ce n'était pas une question. Vous avez apporté une précision.
Oui, merci. C'est une précision. C'est plus une précision.
Ouais, mais c'est très bien et je suis tout à fait d'accord. Ça explique les 49, hein, parce que je suis allé très vite. Je dis tous les 50, en fait, ce n'est pas 50, c'est 49. Je n'ai pas expliqué pourquoi c'était 49.
Voilà. C'est 7 fois 7. C'est 7 fois 7.
Oui, oui.
Tous les 7 ans, la Terre se repose. Et après,
oui, aussi.
Voilà.
Oui, oui.
Et c'est aussi les jours de la semaine, hein, 7 jours.
Oui, tout à fait, oui.
Merci.
Voilà. Oui.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. N'hésitez pas.
Xavier, enfin, merci beaucoup pour cette conférence. Dans la dimension du christianisme social, on a parlé beaucoup de précarité, de la position vis-à-vis du capitalisme, et la place des femmes, comment elle est abordée aussi dans le cadre de ce christianisme social, parce que social, il y a toute la société. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question concerne le travail que l'Église fait et que le christianisme fait lui-même en cohérence par rapport à ce qu'il finalement promeut ou développe comme approche vis-à-vis du social. Je pense à l'écologie, je pense au capitalisme. Il y a quand même, l'Église est propriétaire de beaucoup de biens. Donc, à l'intérieur finalement de cette religion, quels travaux sont menés par eux-mêmes.
Il y a deux questions, en fait, j'ai compris deux questions. Question qui porte sur les femmes, les christianisme social et les femmes, et l'autre sur qu'est-ce qu'on fait de concret en écologie. Sur la question des femmes, le problème est, effectivement, il y a un problème, hein, moi, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas dans l'Église. Mais l'histoire est quand même beaucoup plus nuancée que certaines affirmations médiatiques ici ou là. Saint Bernard, par exemple, au XIIe siècle, va être le grand promoteur, le premier grand promoteur d'un minimum de libération de la femme. Et ses disciples cisterciens vont s'y employer, en particulier avec le Finamor dans le sud de la France. Mais l'introduction par Saint Bernard en Occident du culte de Marie, qui était très développé en Orient mais très peu en Occident, avait, avec un Saint Bernard très politique, hein, Saint Bernard, il n'est pas que mystique. Il est tout, lui, hein. Je ne sais pas comment il fait, mystique, philosophe, politique, grand politique, hein. Il domine la scène politique de son temps. Saint Bernard, en introduisant le culte de Marie, va en même temps, politiquement, dire qu'il faut arrêter de traiter les femmes comme on les traitait à cette époque-là, et c'était, heureusement pour aujourd'hui, bien pire qu'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on n'a pas résolu du tout le problème. Alors, il n'y a pas que Saint Bernard. Il y a eu d'autres évolutions. Je parlerai en particulier de la dernière. Là, je parle de la première et de la dernière, en quelque sorte. La dernière, c'est le synode. Il va y avoir un synode des évêques. Il n'a pas eu lieu encore. On prépare donc, l'Église prépare un synode des évêques. Et c'est une femme, alors j'ai oublié son nom, c'est une Française. J'ai oublié son nom, là.
Tu viens d'être nommée directrice de la communication.
Oh, oui, et directrice adjointe de l'organisation du synode.
Tout à fait.
Ouais.
C'est une parisienne.
Alors ça, je ne savais pas. Je savais qu'elle était française, mais je ne savais pas qu'elle était parisienne. Je ne la connais pas. Je connais pas mal de monde dans l'Église catholique, mais non, je ne connais pas tout le monde, et celle-là, je ne connais pas. Et puis, il y a l'association de la jupe, on l'appelait comme ça avant, elles ont changé de nom, qui ont de plus en plus d'audience parmi les catholiques, et de plus en plus de respect de la part de la hiérarchie. Mais je ne dis pas que c'est gagné, hein, mais les provocations d'une femme pour être archevêque de Lyon, c'est des provocations très positives. Hein, et elle sait très bien qu'elle ne sera pas archevêque de Lyon. Hein, celle-là, je la connais, celle-là. Mais elle sait très bien. Elle sait très bien aussi que ça fait avancer les choses. En revanche, il y a des problèmes théologiques quand même. Et les problèmes théologiques, je vais en citer qu'un, mais j'ai pas le temps. Hein. C'est que le Christ s'est incarné. Et l'incarnation est une idée très importante dans le christianisme. Et on ne s'incarne pas de façon asexuée. L'incarnation, mise dans la chair, l'incarnation implique d'être sexué. Le Christ est donc sexué masculin. Et lorsque, pour les catholiques, le prêtre dit « ceci est mon corps », il le dit « in persona Christi hein, ». Dans la théologie, c'est-à-dire qu'il le dit en tant que personne du Christ, et la personne du Christ est dans ce cas-là un homme, c'est pas une femme. Bon, c'est un argument que j'ai entendu, que j'ai appris, que je développe, qui n'est pas forcément convaincant. Hein, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne sont pas convaincus. C'est pas forcément convaincant, mais c'est quand même intéressant hein, cette idée d'incarnation. Qui n'est pas asexué. Mais je reconnais bien volontiers moi-même, hein, moi-même, je dis de moi-même que ce n'est pas forcément persuasif. Puis il y a l'écologie. Alors, sur l'écologie, c'est vrai que je pourrais, mais on tombe dans les discussions de comptoir de café, mais ça ne fait rien, je le dis quand même, mais le Vatican, l'État du Vatican, le petit État du Vatican, a fait des efforts économiques très importants pour se mettre à l'heure écologique. Enfin, ce n'est pas avec ça qu'on va convaincre que l'Église a fait sa conversion écologique. Plus sérieusement, dans tous les diocèses de la planète, je le sais parce qu'on m'y fait participer à une petite échelle, moi. Mais tout est orienté, mais alors vraiment explicitement, quoi, hein, sur Laudato Si, c'est-à-dire l'encyclique écologique, et pour faire des rapports, des publications, des manifestations. Et alors, ça a quand même un résultat inattendu. Bon, le résultat attendu, c'est que les chrétiens aient de plus en plus conscience de ce problème. Ce qui est inattendu, c'est que, il y a eu un article dans Le Monde, d'ailleurs très récent là-dessus, beaucoup de militants écologistes, politiques ou associatifs, sont des chrétiens engagés. C'est donc les choses avancent, quoi. Mais je ne dis pas que tout est parfait là. Vous avez posé deux questions, qui ne sont pas les questions les plus faciles pour l'Église aujourd'hui. Et je ne dis pas que je les ai résolues. Et je ne pense pas avoir donné la réponse merveilleuse et magique aux questions que vous avez posées. Mais merci de les avoir posées.
Et merci à vous.
Merci. N'hésitez pas, hein, y compris à critiquer. Hein,
Moi, j'aurais voulu revenir éventuellement sur les prêtres ouvriers. C'était difficile de développer. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Finalement, ça a repris vaguement sous Paul VI. Est-ce que ça existe? Il y en a encore? Est-ce que c'est totalement terminé? Et puis, est-ce qu'il y en a ailleurs qu'en France? Est-ce que c'est un mouvement purement français?
Alors, il y en a ailleurs qu'en France. Et ça marche mieux qu'en France, d'ailleurs. Et on ne les appelle plus prêtres ouvriers. L'appellation prêtre ouvrier est totalement abandonnée. On appelle prêtre en situation professionnelle, je crois, ou une expression de ce genre, très proche. Si ce n'est pas celle-là, c'est très proche. Et il y a en France, mais encore plus à l'étranger, un pourcentage non négligeable de prêtres qui exercent un métier. Alors, ce n'est pas forcément ouvrier, hein, mais ce n'est pas non plus patron. Hein, ils peuvent exercer des métiers de fonctionnaires plus rarement, parce qu'il y a le problème de la séparation de l'Église et de l'État, mais ils ont des professions, moi j'en connais un chez moi, dans ma ville, ma petite ville, et qui est chef de rayon à Super U, je cite là, l'enseigne, il est chef de rayon à Super U, il est prêtre. Mais ils sont assez nombreux, hein, alors c'est pas la majorité, alors si vous voulez un pourcentage, je le situe, sans l'avoir lu nulle part, autour de 4-5%, pas plus. À l'étranger, peut-être 5-10%, hein, dans certains pays, à l'Allemagne, les prêtres catholiques allemands, bavarois, il n'y a pas qu'en Bavière, mais sont engagés dans des professions. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il s'agissait d'évangéliser le monde ouvrier et pas de marxiser l'Église catholique. Je fais exprès d'être excessif, pour être clair. Beaucoup de prêtres ouvriers ont viré à ce que l'Église, à tort ou à raison, a estimé être beaucoup trop marxiste. On a vu pas mal de prêtres ouvriers, responsables, locaux et même nationaux. Il y a eu un prêtre ouvrier au bureau national de la CGT, qui était très bien d'ailleurs, en tant que personne. Bon, il développait les idées de la CGT, mais pourquoi pas. C'était une personne qui n'était pas du tout spécialement agressive, au contraire, très posée, très pondérée. Mais bon, ça a fait problème. Hein, et le pape d'alors a interdit de continuer cette expérience de prêtre ouvrier, mais sans l'interdire vraiment, parce qu'il a accepté qu'il continuait en s'appelant autrement, quoi. L'appellation ouvrier étant trop connotée, compte tenu de l'expérience des prêtres ouvriers, justement, était trop connotée communiste. On est en pleine guerre froide. Hein, là. Ça existe encore, des prêtres qui font autre chose qui ont une autre profession que prêtre. Ça existe encore. Et puis il y a beaucoup de diacres. La plupart des diacres, pas tous, mais la plupart des diacres ont une profession en dehors du fait d'être diacre. Pas tous. Il y en a qui sont que diacres. C'est vrai qu'il y a eu. Il faut le reconnaître, c'est plutôt un échec. Hein, en revanche, l'Action catholique n'a pas été un échec. Alors ça marche moins bien aujourd'hui parce que les choses se font autrement. Ce que l'Église conseille, par exemple, lors de la dernière session, cette année 2020, novembre, des Semaines sociales de France, 1500 personnes en visioconférence, c'était un défi technologique, ça. Les Semaines sociales de France ont eu comme conclusion, à partir des séminaires, ont eu comme conclusion que l'engagement devait être un engagement chrétien, en paroisse, clair, afficher clairement qu'on est chrétien, mais s'engager dans des mouvements qui ne sont pas nécessairement chrétiens. S'engager avec les autres pour tel ou tel objectif écologique, social, les handicapés, les associations familiales, que sais-je. Que les chrétiens s'engagent, alors là, il y a un appel très fort à ce qu'ils s'engagent, en fonction des valeurs du christianisme social, mais avec les autres. C'est pour ça que des mouvements comme la CO ou la JOC sont moins en vitrine qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans.
Justement, Bernard, là-dessus, est-ce que tu peux un peu prolonger sur les mouvements qui existent du christianisme social chez les patrons, les cadres, les ouvriers? Qu'est-ce qui existe encore? Parce qu'on voit bien le christianisme caritatif, si je puis dire, avec le Secours 4, par exemple, qui doit être une des premières…
CCFD, oui.
CCFD, absolument.
Voilà. Là, il existe les EDC. Les EDC, c'est Entreprises et Dirigeants Chrétiens.
Ouais.
Qui est un mouvement d'église. C'est compliqué des fois, parce que la CFTC, par exemple, n'est pas un mouvement d'église. Mais les EDC, c'est un mouvement d'action catholique, c'est un mouvement d'église. Ils ont des aumôniers. La différence, elle est là. Hein. La CFTC, il n'y a pas d'aumônier. Il y a des aumôniers aux EDC. Ça ne marche pas trop mal. Hein. Dans le sud de la France, ils m'invitent de temps en temps pour dire deux ou trois mots. Et je constate, à les entendre et à les voir, qu'ils sont actifs. Maintenant, là aussi, je vais être très honnête avec moi-même et avec vous, c'est que quelques-uns, effectivement, appliquent dans leur entreprise les valeurs du christianisme social, la subsidiarité, la destination universelle des biens. Mais en tant que syndicaliste, je ne suis pas très sûr que la majorité suive ce christianisme social. Mais ils ont, il y a toujours des mais qui vont de nuance en nuance. Quoi. Mais ils ont une façon de se justifier qui est intéressante. C'est une distinction philosophique entre la morale de conviction et la morale de responsabilité. Cette idée, elle est de Paul Ricoeur au départ. Alors, la morale de conviction, ils l'ont. Ils sont chrétiens et ils sont pour le christianisme social. Et je crois que c'est sincère pour 99% d'entre eux. Mais ils ont aussi la morale de responsabilité qui fait qu'à un moment donné, il faut prendre une décision et qu'elle n'est pas forcément conforme avec la conviction. L'exemple qui est toujours cité, c'est l'entreprise va mal. Pour la sauver, je dois sans doute licencier une partie du personnel, mais ça passe très mal et puis je suis mal à l'aise à vouloir licencier du personnel. Si je ne le fais pas, c'est toute entreprise qui va disparaître. Si je le fais, ce n'est pas bien non plus. Il y a là une morale de la responsabilité qui fait qu'à un moment donné, je prends une décision, même si, effectivement, elle n'est pas forcément conforme à un christianisme social qui est évidemment opposé à ce qu'on licencie. Même si ce christianisme social, c'est avoir en son sein des économistes distingués d'ailleurs, qui sont nuancés et qui intègrent le christianisme social sans renier les lois fondamentales, les logiques économiques.
Est-ce que tu connais par exemple des grands penseurs, des économistes des penseurs de la société qui se nourrissent de cette pensée-là, de cet héritage de christianisme social?
Oui, alors là, il faudrait que je retrouve le nom. Il y a un jésuite très, très, très connu, quelqu'un va me dire son nom.
Giraud, c'est pas Emmanuel Giraud,
voilà,
comme ça.
Voilà, ça y est, voilà, je ne trouvais pas le nom. Hein. Là, pourtant, il est connu.
Gaël Giraud.
Oui, Noël Giraud, qui est un jésuite, qui est un économiste très en vue, hein, et avec des idées qui ne sont pas politiquement correctes. Hein, par exemple… Il est favorable à la création monétaire, ce qu'on appelait jadis la planche à billets. Donc, il est pas toujours orthodoxe au sens économique du terme, mais il est très en vue. C'est un économiste, oui, c'est un économiste célèbre. Et puis, vous avez des écoles qui vont dans l'ESSEC, qui est une très grande école de commerce et de management, l'ESSEC à Paris, qui a conservé clairement, nettement, hein, dans son fonctionnement interne.
Qui était à l'époque rattaché à l'Institut catholique de Paris et qui est rattaché maintenant à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles.
Oui, c'est moins catholique, mais c'est moins chrétien. Oui.
Mais jusqu'à il y a quelques années, elle était rattachée à l'Institut catholique de
Paris. Oui, et elle a eu comme récent directeur l'actuel ministre de l'Éducation nationale, qui était juste avant d'être nommé ministre, il était directeur de l'ESSEC. Vous avez aussi l'école de Lyon, ça s'appelle l'école de management de Lyon, qui est une très grande école aussi de tricotée, une école de commerce de tricotée, qui est une école très engagée chrétienne.
L'EDEC, t'as l'EDEC à Lille aussi. T'as tout le tissu nordiste.
Ah oui.
Il y en a plein.
Là, mais alors il y a beaucoup d'évêques qui sont des militants du christianisme social. Hein,
non, l'EDEC, je ne parlais pas des évêques. L'EDEC.
Ah, ben.
Les évêques sont plutôt pour, on peut espérer, ouais.
Qui pour quoi? Oui, ah ben, il y en a un ou deux pour être franc qui freinent un peu. Hein. Mais ce n'est pas sur 100, il y en a qu'un ou deux qui freinent. Oui, mais vous avez aussi La Croix, le journal La Croix, qui est, à ma connaissance, hein, le seul journal national qui a une croissance, les autres étant soit en stagnation, soit en recul. La Croix a bien changé, hein. Je ne sais plus La Croix des années 50, des années 60, mais La Croix est clairement, je ne cache pas du tout, La Croix est clairement chrétienne. La Vie aussi, alors La Vie totalement chrétienne, aussi, plus orientée politiquement à gauche, mais totalement sans problème de ce côté-là, de côté christianisme, alors surtout le christianisme social, La Vie, l'hebdomadaire La Vie, défend tout à fait ces thèses-là. Quoi. Et on trouve facilement sur Internet, hein, j'ai fait cette conférence avec plaisir, parce que je m'intéresse depuis toujours à l'IHEMR. Mais on aurait très bien pu vous dire, regardez Internet, quoi. Parce qu'il y a plein de sites Internet qui disent mieux ce que je viens de dire. Quoi.
Ah non, je crois pas.
j'avais une question, moi. On a parlé de christianisme social au sens large. Est-ce que c'est pas plutôt du catholicisme social dont il s'agit? Parce qu'on voit que c'est un mouvement qui est quand même né en France, qui a été accompagné par l'Église, voire pris en charge par l'Église. Oui. Est-ce qu'on a le même sujet dans le protestantisme et dans l'orthodoxie?
Oui, j'ai commencé par ça.
Peut-être raté un épisode.
Le début, le tout début de mon intervention, j'ai dit que les orthodoxes avaient toute une littérature depuis longtemps sur l'écologie qui manquait à l'Église catholique. D'ailleurs, avant la publication de Laudato Si, le pape est allé voir deux ou trois patriarches orthodoxes pour parler d'écologie. et pour écouter ce qu'ils avaient à dire. Le protestantisme a pas mal de textes très intéressants autour du journal Réforme, mais des livres, des petits livres, sur telle ou telle question sociale, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de corpus. Il n'y a pas de corpus.
Sur le rôle des femmes, par contre, ils sont beaucoup plus avancés que...
Oui, mais ça dépend. Alors, tu as raison, mais je mettrai une nuance, c'est que ça dépend des églises protestantes.
Oui, c'est vrai.
Ça dépend des églises protestantes. Et même au sein de chaque église protestante, ça dépend des villes, en plus. C'est pas forcément une critique, hein, parce qu'à partir du moment où on choisit l'idée que chaque chrétien a sa conscience comme essentiellement directrice de sa pensée et de sa vie, on comprend très bien qu'il puisse y avoir des avis différents. Ce n'est pas le choix catholique. Le choix catholique a bien l'idée de conscience personnelle, mais il y a bien l'idée aussi de corps mystique du Christ qui est l'Église.
J'aurais une question, moi, si vous permettez, par rapport à ce qu'on pourrait appeler un paradoxe entre le fait que la France, fille aînée de l'Église, n'ait pas développé de parti proprement catholique et qu'encore aujourd'hui, il n'existe pas, et historiquement, on n'a pas eu ça par rapport à ce que vous citiez en Allemagne, en Italie ou en Belgique. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cet aspect-là ?
C'est encore le problème qui dure, hein, entre l'Église et la République. C'est aussi le problème de la laïcité, hein, qui fait partie de cette question-là. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, le christianisme... Répétez-moi la précision de votre question, parce que je ne voudrais pas répondre à côté. Quelle est votre question?
Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal d'avoir une France qui se dit fille aînée de l'Église, historiquement, et en fait, oui, où jamais un mouvement proprement catholique, voilà, d'un point de vue politique, ne s'est développé?
Voilà, j'allais m'enfiler dans une voie qui n'était pas la bonne. Ça n'a jamais marché. Il y a eu d'autres tentatives, hein, moins célèbres que le Sillon, moins célèbres que le MRP, mais ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que les chrétiens et les catholiques, entre autres français, sont très divisés. Et toujours depuis 1790, quoi. Et qu'il est très difficile, par exemple le Sillon. Le Sillon va se casser la figure parce qu'il va être plutôt favorable à des discussions allant dans le sens de la séparation de l'Église et de l'État. Et ça, à l'époque, hein, à cette époque-là, l'Église n'accepte pas et interdit le Sillon. Et après, alors il n'y a plus d'interdiction aujourd'hui, tout ça, mais il est très difficile, dans une assemblée dominicale, lors de la messe, quand on fait une enquête à la sortie, il y en a eu, hein, c'est un sondage, on a, sur le plan politique, des réponses quand même très, très opposées, quoi, hein. Et donc, on voit bien qu'un parti, catholique ou un parti chrétien, ça ne va pas être facile, hein. Il y a beaucoup, beaucoup... Alors, en plus, les catholiques français suivent guère les consignes du Vatican. Pas parce qu'ils sont contre le Vatican, hein, mais parce qu'ils ne les lisent pas, c'est tout. Hein. Et que les prêtres, c'est peut-être plus grave. Hein. Les prêtres parlent très peu des encycliques dans les homélies, très très peu. Et donc on a des différences fortes, quoi, dans les opinions politiques. Il y a une différence que je regrette, parce que moi je trouve qu'il y a certaines opinions qui n'ont rien à faire avec le catholicisme, mais bon, ça existe, c'est comme ça. Et donc créer un parti, pour tout vous dire, quand j'avais 38 ans, et avec d'autres, bien sûr, mon crépin, parti tout ça, avec bien d'autres, on avait essayé de créer un parti chrétien, mais on n'y est pas arrivé, parce que moi, j'avais la culture, semaine sociale, qui est une culture pas forcément à gauche, mais qui est une culture plutôt progressiste. Moi. Pas à gauche, parce qu'il y a... On est clairement anticommuniste. J'étais avec madame, celle qui était avant monsieur Poisson, qui a pris la direction du Parti démocrate chrétien, là, qui est un mini-parti.
Christine Boutin,
voilà. Et j'étais avec Christine Boutin, on était ensemble, mais on n'était pas que deux non plus, hein, mais on était une trentaine, là, se rassembler pour la toute sa fois, essayer de créer un parti. Évidemment, rien qu'entre moi et Christine Boutin, ça ne pouvait pas aller. Quoi. Il n'y avait pas que moi et Christine Boutin. Et on n'a pas ces différences-là. Je suis allé à plusieurs réunions du Katholikentag allemand. C'est impressionnant, hein, le Katholikentag allemand. Hein. C'est des dizaines de milliers de personnes. Les semaines sociales de France à côté, c'est ridicule. Hein. Et dans ce Katholikentag, ça ne peut pas se faire en France. Les évêques parlent, les théologiens parlent, les laïcs parlent, et les hommes politiques, démocrates chrétiens, parlent. C'est pas concevable en France. Une réunion où vous avez dans la même matinée un évêque et un homme politique en place élu. Au gouvernement. On peut pas l'envisager en France. Et c'est donc deux cultures très, très, très différentes. Et je ne vois pas comment on peut créer en France un parti chrétien. Je ne pense pas que ce soit souhaitable. Quoi. Je ne pense pas que... La CFTC, ce n'est pas pareil. La CFTC affiche chrétien, mais elle ne veut pas prendre le pouvoir. L'objectif de la CFTC n'est pas de prendre le pouvoir, c'est de défendre un certain nombre de valeurs sur le terrain. Donc, on peut afficher l'étiquette chrétienne. D'ailleurs, il n'y a pas que des chrétiens à la CFTC, mais il n'y a que des gens qui sont favorables aux thèses du christianisme social et qui les connaissent. Et qui sont ils sont pas forcément croyants, mais ils sont favorables aux thèses que j'ai développées sur... Les principes là. C'est faisable. La position d'un syndicat est un peu celle d'avocat. La position d'un parti politique, c'est d'être juge. Et c'est pas du tout pareil. On peut avoir une grande diversité dans la défense, c'est-à-dire dans l'avocat. Il faut avoir quand même une certaine homogénéité dans le jugement. Dans la prononciation du jugement. C'est pour ça que je ne vois pas de possibilité d'un parti politique chrétien.
Peut-être, Bernard, si tu me corrigeras, mais par rapport à ta question, Bruno, il semble que l'émergence du christianisme social qui va donner la démocratie chrétienne en Allemagne et en Italie, en France, elle est problématique. Enfin, elle se passe mal, elle est combattue au sein même de l'Église par des catholiques.
Oui.
C'est pas quelque chose qui va être encouragé en réalité par les évêques ni.
Oui.
Ou alors tardivement, mais.
Ça voilà, ça change depuis 2015. Alors c'est pas vieux, hein. On est en 2021. Mais jusqu'en 2015, ce que tu viens de dire, j'ai rien à en dire. C'est tout à fait juste. Depuis 2015. Il y a vraiment un engagement des laïcs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas prêtres, hein. Je ne parle pas de laïcité là, des gens laïcs, moi je suis un laïc, moi. Des gens laïcs et en pleine communion avec les évêques. Moi je fais par exemple une émission radio locale, hein. sur RCF avec mon évêque. Ça ne serait pas fait il y a quelques années, ça.
Hein. C'est clair. Non, moi, je parlais du 19e. Hein.
19e. Ah oui.
L'époque là, se prépare, en fait. Ce qui est...
Ah oui, non, mais là le Rerum, lorsque l'encyclique 1891-1913, Rerum Novarum paraît, dans l'Église de France, c'est une véritable explosion. Quoi, hein. Alors, il y en a qui sautent de joie, ils ne s'y attendaient pas. Et puis, il y en a qui pleurent, quoi, hein. Ils ne s'y attendaient pas non plus. Hein. Parce qu'il y a une telle violence de différence entre la violence du syllabus et la violence de Rerum Novarum. Hein. Il y a une violence de Rerum Novarum. Il attaque fort. Hein. Il y a une telle différence sur peu d'années, hein. sur même pas 30 ans. Il y a une telle différence que dans les autres pays, ça ne va pas faire ça. Hein. Dans les autres pays, il n'y aura pas cet effet-là. Mais on porte avec nous là, 1790. Quoi, là. On n'y arrive pas à s'en sortir de 1790. Les catholiques ont du mal à accepter le... On le voit même sur les lois bioéthiques. Hein. Alors, les catholiques ont raison d'insister sur la défense de la vie. Hein. Je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait catholique. Mais on sent bien qu'on retrouve là, hein, on retrouve là la 1790, on retrouve là 1905, on retrouve là tout ce que vous voulez. Quoi. On retrouve même là, si je peux me permettre, toute la vie politique française. Hein. Parce que vous remarquerez que les départements qui traditionnellement votent plutôt à droite, même quand ça va très très mal pour la droite, ils votent assez pour la droite, ont eu comme secrétaire de mairie pendant très longtemps des prêtres, l'Aveyron par exemple. Et des départements qui ont le même niveau économique, la même structure rurale, mais qui ont eu des secrétaires de mairie instituteurs. Ceux-là, ils votent traditionnellement à gauche. Exemple, l'Aude. Ils sont très près l'un de l'autre, ces deux départements. C'est qu'il y a eu une guerre qui n'a pas existé dans aucun autre pays. Une guéguerre entre le curé et l'instituteur, les deux seuls qui savaient écrire et lire. Une guéguerre qui a duré quand même longtemps et qui a marqué les esprits. Il y avait deux camps. Beaucoup plus fort, le clivage beaucoup plus fort que les clivages politiques, beaucoup plus fort. Et c'est plus comme ça aujourd'hui, bien que hein, les Aveyronnais ne savent pas qu'ils ont tendance à voter à droite à cause de ça, et les Audois ne savent pas qu'ils ont tendance à voter à gauche à cause de ça. Donc il y a un inconscient collectif qui a été formé par ça. Et la France a cette particularité de vivre avec des clivages qui tournent autour de république et religion, et science. Science aussi. Ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a des savants, beaucoup de savants, et puis pas des moindres, Planck, par exemple, l'Américain qui était... très croyant. En France, l'idée générale, plus ou moins comprise, plus ou moins élaborée, plus ou moins pensée, c'est qu'on est ou pour la science ou pour la foi. Ce n'est pas une idée allemande, ce n'est pas une idée américaine, ce n'est pas une idée britannique. On est vraiment très spéciaux dans les rapports de la religion et de la République.
C'est une belle conclusion. Émile, c'est vraiment aller toute petite parce qu'il est 21h05, donc très rapidement. Merci, Bernard.
On a parlé du catholicisme, mais je voudrais savoir aussi la position du monde du protestant. Voilà.
Ah, c'est pas une petite question, ça, Émile.
Oui, c'est pas pour me
défiler. Bernard.
Oui, je réponds de façon brève. C'est pas pour me défiler, mais je pense vraiment et je constate. Hein, qu'il n'y a pas de réponse univoque protestante.
Ouais.
Je me suis intéressé à des textes protestants, mais de telle ou telle église protestante. Et c'est vrai qu'il y a, je ne connais pas, mais je peux peut-être me tromper, hein.
Non, mais,
je ne connais pas d'homogénéité protestante sur. Vous savez, il y a un héritage protestant qui est très pro-capitaliste et un héritage protestant qui est très, très progressiste. Ce sont des héritages culturels. Le Weber, Max Weber a écrit un livre là-dessus, hein, sur le lien du protestantisme et du capitalisme, et c'est net aux États-Unis. Pendant longtemps, l'immense majorité des pauvres étaient catholiques et l'immense majorité des riches étaient protestants. C'est toujours pareil, hein, et ça change un peu. Et ça change un peu.
Sur ce point, Émile, je te suggère de garder la question et la reposer à François Claveroli, qui pourra développer.
Sans doute, mais il est mieux placé que moi.
Voilà.
Ça, c'est sûr.
Très bien. Bernard, merci beaucoup.
Merci.
De ton temps et de.
Et merci de votre patience, parce qu'à des heures pareilles et dans un climat sanitaire pareil, ce n'est pas toujours facile, surtout quand on a une journée de travail avant.
Merci beaucoup.
Merci.
On se retrouve semaine prochaine.